Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Le 30 mai dernier, un décret est intervenu pour encadrer la pratique du financement participatif, peut-être plus connu par nos auditeurs sous le nom de crowdfunding. Le texte crée le statut de conseiller en financement participatif, étend le champ des dérogations pour rendre cette activité légale, tout simplement, et instaure un régime prudentiel allégé pour les plateformes. Cela va-t-il protéger suffisamment l'internaute qui utilise cette nouvelle forme d'économie ? Va-t-il favoriser une meilleure surveillance sur ce type d'activité qui peut aussi bien stimuler la solidarité que favoriser les opérations illicites comme le blanchiment, voire le terrorisme ? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Valérie Le Fur, qui est professeure agrégée à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et qui est responsable d'un groupe de travail d'une association appelée Trans-Europe Expert, qui porte précisément sur le crowdfunding. Anne-Valérie Le Fur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez dire un mot avant de commencer sur cette association Trans-Europe Expert ? C'est quoi Trans-Europe Expert ?
Alors, c'est une association qui réunit un certain nombre d'universitaires, des juristes, mais pas seulement. Il y a aussi des économistes, des avocats. Et cette association cherche à promouvoir le droit européen.
Pas le droit français ?
Non, c'est vrai que, comme le nom l'indique, c'est vraiment le droit européen, mais tout en analysant notre réglementation nationale et en voyant comment elle peut s'inscrire dans le contexte européen, et puis en intervenant soit par des réponses à des consultations de la part de la Commission européenne, soit en répondant à des appels d'offres de la Commission européenne. Alors, dans la perspective d'élaboration.
Là on est en plein de notre sujet, parce que dans le crowdfunding, on va parler d'une loi française, on va parler de pratiques qui ne sont pas que françaises, pratiques qui sont nées aux États-Unis et qui se sont développées un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une histoire, un bref historique de cette pratique ?
Alors, le crowdfunding, si on le traduit littéralement, c'est le financement par la foule. En soi, de faire appel à la foule pour financer des projets spécifiques, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis un moment, le financement du canal de Panama, de la Statue de la Liberté, on a fait appel à la foule. Ce qui est un peu récent, et effectivement qui s'est développé aux États-Unis, c'est l'outil technologique utilisé, c'est-à-dire Internet. Et c'est vrai que les premières plateformes sont tout à fait récentes. Elles sont apparues en France en 2008, un petit peu plus tôt aux États-Unis. Et c'est donc une industrie tout à fait nouvelle qui repose vraiment sur l'utilisation de cet outil technologique qu'est Internet.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut réunir des grosses sommes, mais par des participation minimale, c'est des toutes petites participations.
Oui, ce sont des toutes petites participations. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que le cadre réglementaire ne permettait pas de réunir de grosses sommes. Et puis, parce que c'est l'esprit même du crowdfunding. L'utilisation du terme effet boule de neige, mais c'est exactement ça. C'est un effet boule de neige. C'est par la multiplication de petites contribution que l'on atteint un montant, mais qui reste un montant bien évidemment bien inférieur aux encours.
Bien sûr, surtout dans l'économie actuelle financiarisée, ouais. Mais pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, qu'est-ce que ça représente en volume 2012, volume global ? C'est quand même assez impressionnant.
Alors, volume global tout confondu, à l'échelle mondiale, ça atteint 2,2 milliards de dollars, 1,6 milliard aux États-Unis et 945 millions de dollars en Europe.
Oui, donc c'est quand même pas du tout négligeable.
Non, mais c'est vrai que c'est pas non plus comparable à l'activité bancaire. Pour vous donner une idée, les prêts bancaires, les crédits bancaires à l'échelle mondiale, c'est 6 000 milliards de dollars.
Oui, c'est ça. Donc il y a encore de la marge. Mais il y a plusieurs formes de crowdfunding. Il y a plusieurs formes qui ont d'ailleurs se sont développées dans le temps.
Exactement. À l'origine, le crowdfunding, c'est, l'idée, c'est d'avoir recours à un financement, mais sous forme de dons. Des libéralités, c'est-à-dire que l'internaute, on lui présente un certain nombre de projets et puis par entraide, par souci d'entraide, d'empathie, par intérêt pour tel ou tel projet, ça peut être le financement du Panthéon, etc., des associations culturelles, caritatives, philanthropiques, l'internaute est amené à apporter des sommes, de l'argent, c'est mais ça. Sous forme de dons.
Il y a déjà des belles réalisations. Le Louvre Exactement. A réussi des restaurations de tableaux comme ça.
Exactement. Et puis, donc ça, c'est l'aspect peut-être originel du crowdfunding. Et l'aspect... On traduit aujourd'hui le crowdfunding par financement participatif. Mmh. Et on voit que là, le financement, c'est devenu le terme principal et participatif, c'est l'adjectif.
Ça dénature un petit peu le produit originel, non?
Non, c'est une nouvelle technique de financement et un nouveau canal de financement. Et c'est vrai que là, c'est le financement qui va être mis en valeur par différentes plateformes. Et là, on va retrouver deux autres catégories, finalement. Le prêt, c'est-à-dire que le moyen utilisé pour apporter des fonds, ce ne sera plus le contrat de donation, ce sera le prêt. Il sera soit rémunéré, soit à titre gratuit. Et l'autre type, l'autre catégorie de financement, alors on parle de financement participatif spéculatif.
Oui, c'est ça, le mot spéculatif.
C'est un terme très, très heureux, je trouve. C'est un financement participatif intéressé, disons, parce que là, on attend un retour sur investissement par l'entrée au capital d'une société, d'une start-up que l'on va financer par une plateforme.
C'est aussi donc lié à l'idée d'une nouvelle économie, c'est-à-dire qu'il y a le projet solidaire pour caritatif, culturel, mais il y a aussi cette idée qu'on va permettre à des petits génies, des entrepreneurs de se développer, à des jeunes pousses, voilà, de devenir des capitaines d'industrie.
Alors. C'est vraiment l'esprit. Parce que, en fait, cette nouvelle forme de crowdfunding part du constat que ces jeunes pousses, ces start-up, ont un besoin de financement que l'activité bancaire traditionnelle ou financière traditionnelle ne peut pas couvrir. Souvent, les sommes, c'est entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Pour ces sommes-là, les start-up ont énormément de difficultés à trouver un financement classique. Et donc, le crowdfunding se présente comme un nouveau canal de financement.
Qui se bâtit sur la perte de confiance des banques aussi. Il y a aussi
Alors, il est certain, effectivement, que la crise bancaire et financière a alimenté c'est l'attrait du crowdfunding. Et puis, c'est aussi un aspect sociétal, c'est-à-dire que... En même temps que cette défiance, c'est concomitant, en même temps que cette défiance à l'égard des banques, les internautes ont un souci de voir exactement où va leur argent, de choisir spécifiquement un projet. Vous avez l'aspect proximité dans le crowdfunding, l'aspect sélection du projet qui est fondamental.
On va soutenir une boutique coopérative,
voilà, un
bio,
commerçant,
etc.
Du voilà. coin. On va aussi, dans le crowdfunding dit désintéressé, on va aussi soutenir un petit entrepreneur au Vietnam, en Afrique, qui souhaite acheter un camion, qui souhaite acheter des semences, etc. C'est très varié.
C'est ça. Mais on retrouve quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire que, paradoxalement, le virtuel permet de retourner au réel, un réel beaucoup plus réel que ce que donne, par exemple, le financement éthique que proposent les banques, ou écolo, etc., qui restent très très abstraits et qui demandent une confiance de la part du consommateur.
Exactement. Alors, vous avez dit deux choses. C'est la question du lien social qui effectivement... Et d'ailleurs, les plateformes insistent beaucoup sur ce lien social, ce lien de proximité, cette communauté. Vous devenez babylonien, vous devenez ululien.
Expliquez-nous ululien.
C'est en fait quand vous êtes utilisateur de la plateforme Ulule, quand vous êtes utilisateur de la plateforme Babylone pour les prêts solidaires, vous faites partie d'une communauté. Et cet aspect lien social, cet aspect collaboratif, coopératif, est mis en avant par les plateformes. Et puis vous avez utilisé un autre terme qui me paraît fondamental et qui est à mon avis le cœur de du crowdfunding et de ce que va devenir le crowdfunding, c'est la question de la confiance. Et c'est là toute la problématique, c'est que ces plateformes ont un objectif qui est d'assurer cette confiance.
Mais parlons-en de la confiance, parce que la confiance, ça se garantit. J'allais dire, la confiance, elle repose sur des croyances collectives, sur des représentations partagées, sur des expériences aussi. Et là, ce qui est paradoxal, je parle d'un point de vue juridique, c'est que la confiance se porte sur quelque chose qui n'est pas garanti ou qui n'était pas garanti par le droit, alors que ce qui était garanti par la législation, à savoir la profession bancaire, le monopole, parce qu'il s'agit d'un monopole, ne fait plus confiance. Alors, c'est un peu ça le dilemme du législateur. C'est comment accompagner quelque chose de très nouveau pour en garantir, pour en solidifier, consolider la confiance pour qu'il puisse continuer.
C'est tout l'enjeu du débat juridique autour du crowdfunding, c'est de trouver un équilibre entre une réglementation qui ne soit pas trop contraignante, comme celle qui s'imposait aux banques, mais qui finalement aussi a montré certaines limites. Hein.
Et
de trouver donc un équilibre entre une réglementation qui serait trop pesante, mais qui permettrait d'assurer effectivement la protection de l'internaute, et en même temps, ne pas non plus être trop souple, ce qui pourrait aboutir à des pertes pour les investisseurs, et de toute façon à une crainte à l'égard de tout le système.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on assiste à la fois à un décrochage de liens de solidarité ou de confiance traditionnelle et à la naissance de nouveaux liens, mais sur un paysage qui est le net, qui est très peu régulé ou qui est très difficilement régulable. C'est la difficulté.
C'est toute la difficulté. Alors, c'est tout jeune, c'est une industrie toute récente, donc la réglementation est toute récente, vous l'avez dit tout à l'heure.
C'est moins de 10 ans, ça a 6 ans, 8 ans.
Oui, en ce qui concerne l'activité elle-même. Et l'activité, jusqu'à maintenant, devait s'exercer dans le cadre réglementaire qui était fixé, c'est-à-dire le cadre bancaire et financier, notamment. Mais qui n'était pas adapté. Et c'est tout récent, puisque vous avez évoqué tout à l'heure l'ordonnance qui date du 30 mai, et qui donc a pour objectif, justement, de donner un cadre juridique qui soit à la fois qui ne freine pas l'essor de cette industrie nouvelle, qui a quand même un potentiel intéressant, on a parlé d'un nouveau canal de financement, et en même temps, il faut s'assurer que l'internaute est protégé contre un certain nombre de risques.
On va prendre, les juristes, c'est toujours l'hypothèse du bad man, c'est l'hypothèse de l'échec, du mauvais homme, de la rupture, etc. Est-ce qu'il y a dans ce qu'on sait de cette brève histoire, des échecs retentissants, voire des escroqueries qui ont été montées au crowdfunding?
Alors, il y a eu des escroqueries, et je pense qu'il y en aura toujours.
Oui.
Il y a eu une plateforme comme C'est la Bande aux États-Unis qui s'est rendue coupable d'escroquerie. Vous avez eu aussi, il y a eu quelques plaintes qui ont été déposées contre My Major Company parce que les internautes n'étaient pas satisfaits. Ils avaient le sentiment, alors My Major Company a répondu, mais ils avaient le sentiment que l'argent qu'ils avaient apporté n'avait pas été attribué à l'artiste qu'ils soutenaient. Et puis vous avez eu cette fameuse, c'est pour les aspects vraiment
pénaux.
Et puis vous avez sur un autre terrain, c'est pas une atteinte, un risque juridique en soi, mais vous avez cette affaire Oculus
aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux éditeurs l'affaire
Oculus, c'est ce jeune ingénieur qui, dans son garage, a inventé ce casque virtuel et qui l'a commercialisé grâce à l'aide d'internautes par Quickstarter, par le biais de la plateforme Quickstarter. Il avait réuni 2,4 millions de dollars et grâce à 950 internautes, je ne sais plus le chiffre exact. Donc, il commercialise grâce à l'aide des internautes. Et puis, 2 ans après, Facebook lui rachète pour 2 milliards. Pas pour 2 milliards. Il réalise une plus-value de 2 milliards grâce au rachat par Facebook de son fameux casque virtuel. Donc, les internautes se sont sentis floués parce qu'ils ont souhaité finalement participer à cette plus-value qu'avait réalisée ce jeune ingénieur. Donc, toute la question est là. À l'origine, c'était un don de la part des internautes. 2 ans plus tard, ils prétendent finalement, en quelque sorte, être devoir être considérés comme des associés. On est à la limite de la société créée de fait. Oui. Et donc, on a des soucis aussi de frontières, de qualifications.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cette jeune histoire du crowdfunding, on a l'impression qu'on est retourné à l'état de nature avec ces aspects sympathiques, prometteurs, et en même temps, tous les risques auxquels cela expose. C'est-à-dire qu'il faut réinventer la garantie bancaire, il faut réinventer la prudence, il faut réinventer le type même de contrat. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est une participation qui sont quand même des choses que les juristes connaissent et ont établi depuis longtemps?
Oui, il faut à la fois réinventer et à la fois aussi utiliser l'existant. Et c'est ça qui est intéressant pour les juristes, c'est que le crowdfunding, ça touche à différents domaines, mais on a aussi des bases. Hein. On connaît le contrat de prêt, le contrat de société. Donc ça n'est pas à réinventer. Ce qui est à réinventer, c'est peut-être effectivement cet aspect protection de l'internaute.
Est-ce qu'il y a...
C'est rafraîchissant.
Oui, bien sûr, c'est rafraîchissant. Mais est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire, est-ce que on va venir dans le détail de ces dispositions? Mais la difficulté aussi, c'est qu'il faut y aller doucement. Parce que l'idéologie des gens qui pratiquent le financement participatif, c'est quand même la liberté qu'ils recherchent. C'est une solidarité directe. C'est la désintermédiation. C'est-à-dire qu'on ne veut plus passer par ces gros intermédiaires qui nous ont floués, anonymes, qu'on ne connaît pas.
Ça rejoint un peu l'idée de démocratie directe, effectivement.
Oui, c'est ça. C'est ça. Là, il y a une sorte d'économie directe, on pourrait dire.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, à vrai dire. Je suis assez sceptique. Je ne sais pas. Tout va dépendre, en fait, de la capacité des plateformes à assurer cette confiance et à assurer la protection à la fois des porteurs de projets, mais également, bien évidemment, des internautes. Alors là, avec la nouvelle ordonnance, on essaie de mettre en place les mesures de protection des internautes, mais c'est vrai qu'il y a aussi la protection des porteurs de projets.
Bien sûr. Oui. Alors, on va commencer par celle des internautes. La protection de l'internaute, c'est de ne pas être escroqué, c'est que son argent aille bien à la destination qu'il souhaitait.
Alors ça, effectivement, c'est l'enjeu s'agissant des plateformes de dons. C'est quand on fait un don, on s'attend effectivement à ce que l'argent aille directement aux donataires. C'est également le cas pour les plateformes, pour les internautes qui participent au crowdlending ou au crowdinvesting. Mais là, il y a d'autres risques supplémentaires. C'est la question de la rentabilité, de l'investissement, du retour sur investissement quand on participe à un projet par entrée au capital d'une start-up. Et puis, s'agissant du prêt, c'est la garantie d'être remboursé de la somme que l'on a versée. Voilà. Et puis, il y a effectivement aussi les risques, vous les avez soulignés, les risques, mais qui sont propres à toutes les plateformes, les risques de blanchiment, de lutte contre, enfin, tous les aspects lutte contre le terrorisme, financement, voilà.
Parce qu'on peut faire le lien, d'ailleurs, avec ce qu'on voit dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il y a dans cette nouvelle économie, dans cette nouvelle solidarité par le financement participatif, par cette forme de démocratie directe, il y a quelque chose de très optimiste. Ça aussi, c'est un trait de société. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme fondamental.
C'est vrai que vous avez un champ lexical du crowdfunding, c'est-à-dire l'optimisme, l'entraide, la sympathie. Mais tout ça, moi, je trouve que...
On a des amis sur Facebook.
Voilà.
C'est que le pouce en l'air, c'est pas le pouce en bas, etc.
Et c'est vrai que d'ailleurs, vous avez une étude qui a été faite, que les levées de fonds qui ont réussi, que ce soit surtout en matière de dons et puis de prêts, ce sont des levées de fonds où finalement le porteur de projet avait un réseau social développé. Il y a un lien entre son réseau Facebook et son...
Une synergie, donc il y a une synergie entre les réseaux sociaux et le crowdfunding.
Et c'est ce qui fait la nouveauté également de ce mode de financement, c'est qu'il repose effectivement sur les réseaux sociaux par le biais d'Internet.
Et il y a cette théorie des trois cercles, c'est-à-dire qu'il y a un premier cercle qui va en agréger un autre et puis finalement on va pouvoir atteindre le grand public.
On revient à cet effet boule de neige,
la boule
peut exploser aussi en plein vol.
C'est ça, la boule peut se transformer en une bulle.
Ouais.
Alors, comment aussi, et il y a aussi une part d'encadrement, parce que jusqu'ici, Anne-Valérie Le Fur, vous êtes professeure de droit, il y avait un monopole bancaire, c'était un monopole la profession bancaire.
Ça reste un monopole.
Bon.
C'est-à-dire qu'effectivement, en principe, le principe était que seuls les établissements de crédit pouvaient octroyer des crédits à titre onéreux, des prêts rémunérés et à titre habituel. Alors quand vous êtes un internaute et que vous prêtez par le biais des plateformes de l'argent, même à 2-3 reprises, vous devenez finalement, vous exercez une opération de banque puisqu'elle est faite à titre onéreux si c'est un prêt rémunéré et à titre habituel. Alors, ça ne concernait que les plateformes de prêts rémunérés. Donc ce monopole bancaire était une contrainte effectivement pour les plateformes parce qu'elles étaient obligées de prendre le statut d'établissement de crédit.
Et elle le prenait effectivement.
Alors effectivement, par exemple, vous avez Prêt d'Union, hein, qui est une plateforme de prêts rémunérés, de crédit à la consommation. Ils ont le statut d'établissement de crédit. Ou alors, les plateformes s'adossaient à des établissements de crédit. Mais effectivement, elles étaient obligées de... Alors, vous aviez aussi... Vous avez eu des montages juridiques très judicieux pour contourner ce monopole bancaire. Vous avez par exemple Uniland, du coup, qui a eu cette ingénieuse idée, je trouve, de faire appel à une technique qui n'était plus tellement utilisée, c'est la technique des bons de caisse nominatifs. C'est-à-dire oui. que le porteur de projet émet des bons de caisse nominatifs pour, c'est un titre de créance, hein, pour reconnaître la dette qu'il a à l'égard de l'internaute. Le souci, c'est que ça ne peut concerner que des sociétés qui ont 3 ans d'exercice. Donc ça ne peut pas.
Mais il y avait aussi une manière d'utiliser les nouveaux moyens de paiement, les nouvelles monnaies.
Alors ça aussi, mais alors ça c'est un autre aspect, c'est qu'effectivement, c'est toutes ces plateformes, alors là ça concerne toutes les plateformes, à partir du moment où elles réceptionnent des fonds, que les fonds transitent par la plateforme, qu'elles, eh bien elles heurtent le monopole des établissements de paiement.
C'est ça.
Et donc elles doivent prendre le statut soit d'établissement de paiement, soit d'établissement de monnaie électronique.
C'est ça.
Ou alors d'établissement de crédit.
Oui, mais alors ça c'était pas possible à long terme.
En tout cas, c'était un frein net au développement de l'activité de crowdfunding et qui allait à l'encontre justement de cette volonté de libérer le potentiel. Hein, c'est le titre de la communication de la Commission européenne et puis c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement. C'est libérer le potentiel du crowdfunding.
C'est ça, qui peut avoir des effets tout à fait positifs.
Donc, à condition de...
Voilà, alors donc il y a un régime de responsabilité parce que le statut en droit, c'est ce qui établit à la fois des obligations et une responsabilité. Et donc, est-ce que ce n'était pas aussi l'un des enjeux de ce décret que de préciser cette responsabilité des plateformes ?
Alors, effectivement, c'était l'enjeu de cette ordonnance. C'est une ordonnance qui a été prise par habilitation du législateur. L'objectif de cette ordonnance, c'était à la fois de libérer et donc de faire une exception au monopole bancaire, mais également, on n'en a pas parlé, mais une exception à l'obligation de rédiger un prospectus quand vous offrez au public des titres financiers. Donc ces deux contraintes qui étaient très fortes ont été levées par l'ordonnance à condition de ne pas dépasser un certain montant. Et en même temps, l'ordonnance, elle crée 2 statuts. Le statut d'intermédiaire en financement participatif pour les plateformes de prêts, éventuellement de dons, mais ce n'est pas une obligation, et le statut de conseiller en investissement participatif pour les plateformes où vous investissez au capital d'une start-up.
Et comment on acquiert ces statuts ?
Alors, ces statuts, ça va être l'objet des décrets, et ça va être la mise en œuvre de cette ordonnance, mais ce statut va être soit accordé, on parle d'agrément, hein, soit par la CPR, l'autorité de contrôle en matière bancaire, soit par l'AMF, l'autorité de contrôle en matière financière.
Ça veut dire que l'AMF a retrouvé, parce qu'il y a une volonté de la part de ces plateformes d'échapper au contrôle de la juridiction de l'AMF.
Je pense que surtout ce que souhaitaient les plateformes, c'est pas d'échapper à tout contrôle. Hein. C'est pas d'échapper à tout contrôle. C'est surtout qu'on allège le statut qui est assez lourd hein, des banques ou des conseillers en investissement financier.
Il n'y a pas aussi un petit problème de concurrence parce que là, on parle de l'attitude des autorités françaises, un décret pris par le président de la République. Bon. Mais j'imagine que dans d'autres pays, en Italie ou en Angleterre, aux États-Unis, il n'y a pas du tout la même contrainte, il n'y a pas du tout le même encadrement.
Non, les encadrements varient d'un État à l'autre. Pour l'instant, c'est une industrie récente dans tous les pays de l'Union européenne. Et c'est justement l'objectif de la Commission européenne. Et c'était l'objet de cette communication de la Commission européenne. L'objectif est effectivement d'harmoniser. Parce que pour l'instant, les plateformes, avec l'ordonnance, peuvent opérer de façon un peu plus souple qu'avant sur le territoire national, mais elles n'ont pas le passeport européen. Et donc, elles ne peuvent pas s'exporter.
Ça veut dire quoi, opérer sur le territoire national quand on est Internet ?
C'est-à-dire que les plateformes, ce sont des sociétés, des SAS.
Oui, je veux dire, mais oui. Si je me mets, moi, une plateforme en Andorre...
Mais c'était le risque,
en Andorre ou Luxembourg ou oui. À Taïwan, je peux très bien opérer en France, en français, sur la plateforme. Vous voyez, la question que je me pose, parce que c'est exactement la question qui se pose dans beaucoup d'autres domaines concernant la régulation d'Internet, c'est comment on peut... toujours penser une régulation sur un mode territorial, territorialisé, alors qu'on est sur une activité qui est fondamentalement déterritorialisée.
Oui, l'activité en soi est déterritorialisée. C'est la plateforme voilà. Qui va être soumise à un statut en fonction de son siège social.
C'est ça. C'est la plateforme et son siège social, et c'est-à-dire là le pays dans lequel elle est enregistrée.
Ouais, exactement.
Et rien ne les empêche d'aller ailleurs.
Non, mais d'ailleurs, elles auraient pu. Certaines sont allées en Grande-Bretagne, où c'était beaucoup plus libéralisé. Mais bon, après, c'est un choix.
C'est ça. Mais toutes ne l'ont pas fait.
Non. Alors, d'autant plus que maintenant, justement, le gouvernement leur a donné les moyens de se développer en France. Mais effectivement, les plateformes ont bien conscience que cette ordonnance n'est que provisoire et que ce n'est qu'une étape, un tremplin vers...
Alors, Anne-Valérie Le Fur, on parlait de Trans-Europe Expert. Vous présidez le groupe de travail Trans-Europe Expert là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que vous pensez que ce décret de mai va encadrer définitivement le crowdfunding en France, le financement participatif, ou est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une étape et laquelle ? Laquelle serait-elle ?
Ah, il va falloir passer à une étape, c'est une étape au niveau européen.
Et qu'est-ce que devrait faire une bonne législation européenne sur le financement participatif pour vous ?
La Commission européenne ne le sait pas encore. Ah bah, elle nous pose la question. Je pense qu'il va falloir harmoniser les règles. Et vous avez toute une série de directives auxquelles le crowdfunding finalement se heurte. Directives du commerce électronique, directives services bancaires, services financiers. Il y en a au moins une quinzaine. Donc il va falloir effectivement soit une nouvelle directive pour harmoniser les règles en matière de services financiers, puisque c'est un nouveau service financier finalement qui est proposé. Effectivement, il faut aller vers une harmonisation des règles et pour s'assurer surtout que tous les internautes ont le même degré de protection.
De protection, il s'agit quand même derrière de la protection des internautes sans décourager la solidarité.
Exactement. Mais c'est tout l'enjeu du...
C'est tout l'enjeu de cette législation. Mais à vous entendre, on a le sentiment quand même qu'il s'agit d'un créneau tout à fait nouveau dans le financement et dans l'activité bancaire et qu'il ne s'agit pas véritablement d'une concurrence avec les établissements bancaires traditionnels. Il s'agit plutôt d'un créneau manquant naissant en voie de création, mais qui ne prend la place de personne d'autre.
Non, il me semble que c'est un créneau complémentaire. D'ailleurs, ce serait une erreur de penser que c'est un créneau qui concurrence les banques ou qu'il faut se passer des banques. Chacun va œuvrer, à mon avis, dans son domaine bien, bien précis. Et le crowdfunding, c'est un mode de financement complémentaire qui intervient là où les banques n'intervenaient plus.
Et est-ce que ça ne leur donne pas envie d'intervenir aux banques dans
bien
ce créneau-là ?
Bien sûr. Pendant un premier temps, les banques était assez hostile à cette ordonnance, enfin c'est ce qui m'a semblé, et puis était assez réticente. Mais maintenant, on voit bien qu'il y a un phénomène de rapprochement. Certaines banques prennent des participations dans les plateformes de crowdfunding. Le Crédit Coopératif vient d'annoncer qu'il allait s'intéresser. Il le fait déjà. De toute façon, le Crédit Coopératif le fait déjà depuis un moment, mais que le crowdfunding, notamment la partie don du crowdfunding, l'intéressait. Donc, effectivement. Et puis, quand on regarde bien, la plupart des plateformes étaient adossées à des établissements bancaires. Ou alors ont recours d'ailleurs aux établissements bancaires pour les aider dans la phase d'analyse des projets, l'analyse financière. L'analyse financière, le scoring du crédit, credit scoring, ce sont des activités, c'est un métier. Les plateformes n'hésitent pas à avoir recours.
Et les plateformes sont toutes, sur la dernière question, les plateformes, elles sont toutes désintéressées ou on peut s'enrichir par une plateforme ?
Ah non, les plateformes sont intéressées. En tout cas, bon, les plateformes de crowdfunding sous forme d'entraide, elles ont besoin d'être rémunérées pour leurs frais de fonctionnement. Et puis toutes les plateformes, elles ont besoin, oui, de fonctionner et donc prélèvent des commissions sur les fonds qui sont levés.
Eh bien, Anne-Valérie Le Fur, merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Clément Daté. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission sur le site de France Culture à la page du Bien commun pendant 1000 jours, 3 ans, et ils peuvent même la télécharger pendant un an, et ils consulteront les références, et notamment d'un colloque qui s'est tenu, je crois, il y a quelques semaines à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perbert.